Donc Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, tends aussi la joue gauche. Souvent l'évangile est un peu obscur. Là, pour une fois, on a un commandement clair, et au moins on comprend ce qu'il veut dire. Le problème, c'est que, a priori, ça ne semble pas tellement applicable, et même pense-t-on vraiment que cela soit une bonne chose que de vouloir appliquer un tel précepte ? Je crois que la plupart de nos contemporains sont persuadés que ce commandement est en fait un petit peu absurde. Alors comment réagir par rapport à cela ? Il y a plusieurs manières. La première et la plus radicale, peut-être malheureusement la plus répandue parmi ceux qui ne fréquentent pas ces assemblées, c'est de dire Jésus est une sorte de doux idéaliste qui dit à peu près n'importe quoi. L'évangile, on ne mérite pas qu'on le prenne au sérieux, ça n'est pas réaliste, ça n'est pas applicable, donc je laisse cela de côté. Je pense que ce genre de commandement peut effectivement éloigner un certain nombre de gens de l'évangile. Mais en même temps, ce serait, je crois, aller un petit peu vite en besogne, comme quelqu'un à qui on offrirait un Stradivarius, par exemple, le plus beau des violons. Il le prendrait, il regarde, il ne sait pas en jouer, il arrache des bruits de miaulements de chat effroyables, et il dit « ce violon est une horreur, ça fait des très vilains sons, je le mets à la poubelle ». Eh bien, ce serait un petit peu l'attitude de celui qui rejetterait l'évangile, simplement pour une sorte de réaction épidermique par rapport à quelque chose qu'il ne comprend pas. Et donc je pense qu'il faut chercher un petit peu plus loin, et en tout cas ne pas sous-estimer le texte. Autre attitude possible par rapport à ce commandement, ce serait à l'inverse de le prendre totalement au sérieux et de dire, eh bien oui, c'est l'apologie de la non-violence. Et après tout, non-violence, pourquoi pas ? Ça peut être une prise de position, il y a des objecteurs de conscience, et la non-violence a d'ailleurs montré qu'elle pouvait être très efficace, comme par exemple avec Gandhi, qui a réussi à chasser l'Angleterre de l'Inde avec ses théories non-violentes, et finalement ça valait peut-être mieux que la guerre d'Algérie. Enfin, on peut toujours en discuter en tout cas. Personnellement, cette solution d'une lecture absolument non-violente de l'Évangile ne me convient pas, parce que je crois qu'elle n'est pas cohérente avec l'Évangile lui-même. Jésus n'a pas toujours été non-violent, on le verra, il a même fait parfois preuve de violence, comme quand il a chassé les marchands du temple avec des fouets. Et même, on le voit à la fin de l'Évangile de Jean, quand il reçoit lui-même une gifle de la part d'un des gardes, eh bien, il ne tend pas l'autre joue. Par conséquent, il n'applique lui-même pas ce beau commandement qu'il nous donne. Et par ailleurs, je ne suis pas persuadé que la non-violence soit toujours une bonne solution. Parce que, par exemple, si quelqu'un me frappe sur une joue et que benoîtement je tends l'autre et qu'il en profite pour me frapper une deuxième fois en se disant « c'est formidable, on peut frapper, il n'y a aucun problème », je n'aurais fait qu'inciter ma personne violente à continuer dans la violence. Et donc je crois que j'aurais eu un effet négatif, en quelque sorte. Et donc je crois que dans ce cas-là, je n'aurais eu que, je dirais qu'une manière d'être complice de l'aggravation de son cas. Et donc je pense que la non-violence n'est pas toujours la meilleure solution, en tout cas c'est discutable, que ce n'est pas toujours bon, mais que néanmoins, peut-être parfois, ça peut, enfin bref, que c'est plus compliqué que ça. Alors il y a ensuite les solutions un petit peu, je dirais, les sous-produits de cette hypothèse et de dire « Ah, je vais quand même essayer de défendre ce que dit Jésus » en pensant que dans l'absolu, la non-violence n'est peut-être pas toujours la solution, mais néanmoins, ce qu'il dit là sur la joue droite et la joue gauche, c'est quand même vrai. Alors on peut y arriver à défendre cela. Par exemple, un jour, j'ai un catéchumène qui avait 15-16 ans et qui m'a dit « Ben écoutez, en fait, Jésus a raison, parce que j'essayais de lui démontrer qu'il ne fallait pas appliquer ce commandement. » Il m'a raconté qu'un jour, dans le métro, il s'est fait agresser par des voyous, et il y en a un qui voulait lui voler ses affaires, mais très sagement, il n'avait rien, rien de valeur. Et l'autre le menaçait avec un cutter, et lui dit « Oh, vas-y, je vais te faire une balafre !» Et mon catéchumène lui dit ben, vas-y, fais-la ta balafre, vas-y, et alors, t'auras quoi de plus ?» Et que le voyou, du coup, un peu désarçonné, s'est senti tout bête avec son cutter et s'est dit ben, c'est vrai finalement. Et il est parti, il l'a laissé tranquille. Et donc finalement, on voit que dans certains cas, il a appliqué l'évangile dans la pire des situations où on n'aurait pas pensé que l'évangile s'applique, et ça a marché. Bon, faut se méfier quand même, hein. Ça ne marche pas forcément toujours. Mais disons que ça peut marcher. Et puis après, alors il y a des théologiens astucieux, et j'ai lu une fois dans un commentaire alors une explication très astucieuse, pour essayer de justifier ça, en tirant un peu le texte à gauche et à droite, en disant, voilà, ce que veut dire Jésus, en fait, c'est que si on me frappe sur une joue, il faut tendre l'autre. C'est-à-dire, il faut se présenter autrement à celui qui vous a agressé. Sous-entendu, s'il m'a agressé, c'est peut-être que finalement je l'ai un peu cherché ou je lui présentais une certaine image de moi qui a généré une agression et qui a généré une violence. Et donc il suffit que je me présente autrement et que je me tourne sous un autre aspect, sous un autre visage, sous une autre face, parce que je peux penser parfois que je suis moi responsable de la violence qui a été déclenchée contre moi. Ah, ça c'est très astucieux, ça. C'est très astucieux, mais je crois très dangereux, monstrueusement dangereux. C'est avec ce genre de propos que l'on va finir par faire dire ou faire croire, par exemple, aux jeunes femmes victimes de viol, que c'est de leur faute. Et on finit par faire dire comme cela que la victime est en fait coupable, parce que c'est elle qui est coupable d'avoir généré le crime qu'elle a subi. Et par conséquent, je ne veux pas rentrer dans ce genre de solution, parce que je crois que c'est extrêmement dangereux, et c'est même ce contre quoi beaucoup de gens essayent de lutter aujourd'hui, pour essayer de dire aux victimes, vous n'avez pas à vous sentir coupable du crime que vous avez subi, sinon les choses deviennent épouvantables. Et donc surtout, évitez ce genre de solution, que je n'aurais même pas dû vous dire. C'est un poison effroyable. Même si, bon, c'est vrai, dans certains cas, on est un peu responsable quand même, peut-être, de l'attitude que l'on génère. Mais néanmoins, je crois que c'est quand même extrêmement dangereux. Enfin bref, ça ne me plaît pas. Alors, comment ferais-je ? Eh bien, autre solution encore, c'est de dire, Jésus, en fait, dit cela par une sorte de pure provocation. Et je crois que Jésus est quand même très souvent assez provocateur. Jésus n'est pas là pour dire « faites ceci, faites cela, soyez gentil, lavez-vous les mains, dites bonjour à la dame ». Jésus est un provocateur. Et il est là pour nous bousculer, pour nous forcer à réfléchir et à nous poser les bonnes questions. Et en effet, Jésus arrive devant des gens qui ont une demande particulière. C'était des juifs un peu traditionnalistes qui disait à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la bonne religion ? À quelle loi dois-je obéir pour être parfait, pour que Dieu me sauve, pour être sauvé, pour être juste, pour être bon ? Alors Jésus leur dit, écoutez, vous voulez une loi ? Très bien, je vais vous en donner une. Donne à qui te demande, si on te vole ton manteau, donne ta tunique. Si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Et aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Bref, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors celui qui est en face se dit, oh là là, bah oui, ben là, ça ne va pas être facile. Hein. Et par conséquent, Jésus le pousse à comprendre que la logique de la vie ne consiste pas à appliquer des petites règles de morale, mais consiste à réfléchir sur sa propre existence et à se poser des questions et à se sentir soi-même responsable des choix que l'on fera. Et par conséquent, ce commandement, si on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite, est peut-être justement lancé non seulement comme un commandement absurde, donc il n'y a pas de commandement à appliquer, il ne s'agit pas de l'appliquer, mais comme une provocation pour nous forcer à réfléchir. Et donc quand je lis ça, moi, je me dis, ah, Jésus a tort. Évidemment c'est exagéré, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais pourtant je me dis, mais moi, comment est-ce que je réagis dans la violence ? Et comment je réagis quand je suis agressé ? Et comment je devrais réagir ? Et est-ce que ce serait bon parfois de laisser faire ou de tendre l'autre joue ? Et dans quel cas ça pourrait être positif ? Dans quel cas ça pourrait être négatif ? Et tout à coup, ça me force à me poser toutes ces questions, justement de la manière avec laquelle je peux, moi, réagir à la violence ou à l'agression. Et ces questions sont des questions que je dois apprendre à me poser. Et par conséquent, ça c'est très bon, parce que la loi, elle est inapplicable, et en tout cas la religion, il ne s'agit pas d'appliquer une petite règle de morale. La religion que propose le Christ, c'est de dire, posez-vous vous-même les bonnes questions et essayez de trouver vous-même les réponses les plus adaptées à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et comme je l'ai un peu montré tout à l'heure, il y a certains cas où il faudra tendre l'autre joue, et d'autres cas, il faudra peut-être lui mettre le poing dans la gueule pour lui faire comprendre. Mais ça, il faut réfléchir et savoir mais qu'est-ce qui va optimiser la situation et quelle va être la bonne manière de réagir. L'important, c'est de ne pas réagir d'une façon impulsive, égoïste, mais que notre réaction soit quelque chose de construit, en quelque sorte. Bref, le but, c'est de faire baisser la violence. Le but, c'est d'essayer d'arranger les choses. Il est évident que si tout le monde finit par se mettre sur la gueule, finalement, comme on dit vulgairement, ça, les choses n'avanceront pas. Donc le but, c'est de faire baisser la violence. Si en tendant l'autre joue, j'incite l'autre à rester dans la violence, j'aurais perdu. J'ai eu tort. Et donc, peut-être que je dois trouver la manière optimale pour essayer d'arranger le mieux les choses. Ce qui n'est pas faux, c'est que je crois en effet que c'est rarement par la violence et par la vengeance brutale que les choses s'arrangeront. Et sur ce point, je crois que Jésus, même s'il donne un commandement un peu provocateur, donc, pour nous faire réfléchir, comme je le disais, ou pour nous faire dépasser l'idée d'une petite morale, néanmoins, ce qu'il dit n'est pas totalement idiot. Et là, j'en arrive à la troisième manière de lire ce passage, et je crois que c'est la façon la plus astucieuse de le voir, en plus de celle qui précède, c'est de dire, Jésus, en fait, prêche un idéalisme positif. C'est-à-dire, ça n'est pas applicable, d'accord, c'est exagéré, d'accord, mais en même temps, c'est pas complètement faux. Et il y a, dans ce qu'il dit, quand même quelque chose, finalement, de vrai, même si c'est exagéré, d'accord, même si ce n'est pas à appliquer bêtement, mais il y a quelque chose de vrai, et peut-être y a-t-il là, dans son propos, finalement, l'image, un peu trop marquée, trop corsée, mais l'image d'une attitude révolutionnaire par rapport à la violence qu'on subit. Et ce qu'il a voulu dire, je crois, c'est qu'il faut essayer un jour ou l'autre de briser le cercle vicieux de la violence. Et en effet, si à chaque fois on répond à la violence par la violence, rien n'avance, enfin, peu de choses ont des chances d'avancer. Mais il dit l'idéal, ce serait d'arriver à aimer l'autre, je pense, c'est vrai, et l'autre qui m'a frappé, de le dissocier de son acte de violence. Donc il me fait subir une violence, je déteste cette violence, mais néanmoins, j'essaye néanmoins d'aimer l'autre, c'est-à-dire de me dire, mais l'autre est quand même un être humain, il réagit comme ça, il a tort, comment vais-je pouvoir lui faire comprendre qu'il a tort? Et peut-être que souvent, il faut que quelqu'un, dans une agression, soit capable de briser ce cercle vicieux de la violence et peut-être de dire à l'autre, tu me frappes et pourtant tu es mon frère. Voilà. Tu me frappes et tu as tort. Et je t'empêcherai peut-être de continuer à me frapper par la police, par la violence, par l'avocat, par ce que vous voulez. Mais néanmoins, tu es mon frère et je t'aime. Et ça, je crois que à un moment donné, de sortir de ce jeu de ping-pong de violence peut permettre de désamorcer les choses. Je l'ai vécu, tenez, il y a quelques années, ici même, dans ce lieu saint et sacré de l'Étoile. Il y a un repas de paroisse après, toutes ces dames s'affairent et sont extrêmement agitées, préoccupées pour que tout soit bien, que tout soit parfait, ça n'est pas facile. Et un jour, justement, avant le culte, où la tension était extrême, il y avait une de ces dames qui se met en colère et qui se met à crier, à vociférer, à s'énerver contre un autre responsable de la paroisse que je ne nommerai pas plus et qui sans doute avait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, enfin j'en sais rien. Alors elle lui crie dessus et ce responsable de la paroisse le regarde, il le regarde sans rien dire et lui dit « Laurette, je invente le nom, je t'aime ». Il va vers elle et lui fait la bise sur les deux joues. Cette pauvre dame de la bonne société protestante, ça devait être la première fois qu'on lui faisait le coup, mais ça l'a sidérée. Et effectivement, d'un coup, la violence était tombée, l'agressivité était partie, et tout est rentré dans l'ordre. J'ai énormément admiré, parce que moi, quand on m'agresse, j'ai beaucoup de mal. Je deviens moi-même agressif, je veux me justifier, je me sens coupable, enfin, c'est très compliqué. Et je me suis dit, il y a là, effectivement, voilà, quelqu'un qui a su, je dirais, convertir la violence par autre chose et à briser ce cercle de la violence. Et finalement, c'est ça, se tourner autrement, renverser la situation et finalement de penser l'autre en me frappant me force ou veut me contraindre à rentrer dans un type de relation de conflit, eh bien moi, Je retourne la situation. Je ne veux pas rentrer dans une situation de conflit. Tu n'es pas mon ennemi, tu es mon frère et je t'aime. Et ça, c'est assez remarquable. De voir l'autre, non pas comme un ennemi, mais comme un frère dont, je vous disais, je me sens responsable. Et peut-être que c'est ça la clé de l'Évangile. De ne pas réagir par rapport à soi, par rapport à ce que l'on subit, mais de réagir par rapport à l'autre. Et le problème, ce n'est pas la violence que je subis, peu importe. Bon, Jésus en a subi d'autres, hein. Mais de se dire pourquoi l'autre est-il violent. Réagir par rapport à soi, c'est égoïste et c'est dangereux. Et l'Évangile nous invite à voir les choses autrement, plus globalement, et en priorité par rapport à l'autre. Donc je dois me demander comment puis-je faire pour faire avancer la situation, pour lui faire comprendre quelque chose. Et du coup, peut-être, effectivement, que je dois être pour l'autre, je dois essayer d'être pour l'autre, un questionnement. Et c'est ça peut-être le lien, tenez. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus, curieusement, à la fin de l'évangile de Jean, lui-même reçoit une gifle. Et j'ai toujours été frappé par le fait, enfin, le mot est bien choisi, par le fait que Jésus ne tend pas l'autre joue, donc il n'applique pas son commandement. Et pourtant, il doit y avoir une cohérence, ou Jésus est fou. Mais il y a une cohérence. Quand le garde frappe Jésus sur sa joue, je ne sais pas laquelle, droite ou gauche, dans son procès, Jésus lui dit « Pourquoi me frappes-tu ? Si j'ai mal agi, dis ce que j'ai fait de mal, et sinon, pourquoi me frappes-tu ? » Et donc, il le fait réfléchir, il le questionne. Et c'est peut-être ça, l'essentiel. Ça peut être ça aussi, le fait de tendre l'autre joue. Il vous colle une claque, tu dis « Bon, allez, vas-y, mets-en une autre, et alors ? Ça t'avancera à quoi ? Autrement dit, pourquoi fais-tu cela ? Moi, je ne te veux pas de mal. » Et donc, c'est d'arriver à être une question pour l'autre, ou de lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien, ou de lui montrer que le plus important, c'est la relation humaine. Alors voilà, ça c'est l'absolu. Dans l'absolu, je devrais être capable de considérer mon agresseur comme mon frère. C'est l'absolu, c'est difficile, c'est pas simple, c'est vrai. Et pourtant, c'est l'idéal. Et moi, je dirais que j'aimerais être capable d'agir comme ça. L'idéal, ce serait de pouvoir agir toujours sans violence. Ce serait de pouvoir aimer même son agresseur au point de pouvoir toujours l'écouter et l'accueillir. Et l'idéal, ce serait de pouvoir dire, si je surprends quelqu'un en train de cambrioler mon appartement, de le voir et lui dire « Mais mon frère, tu as besoin de quelque chose ? Eh bien, viens avec moi, je vais te le donner. » Ça, ce sera un questionnement. Oui, c'est loin, hein, j'en suis peut-être pas capable, mais néanmoins, je pense que ce serait quand même l'idéal. Et peut-être que ça le convertirait mieux qu'autre chose. Hein. On le trouve, vous savez, dans Les Misérables avec Jean Valjean. C'est extraordinaire, cette histoire. Jean Valjean habite chez un curé et il vole les couverts en argent et il s'en va. Il est repris par les gendarmes qui le ramènent devant ce brave curé. Et le curé dit « Ces couverts en argent ? Mais pas du tout. C'est moi qui les lui ai donnés. Et même, vous avez bien fait de me le ramener parce qu'il a oublié de prendre les chandeliers en argent que je voulais lui offrir aussi. » Et hop, il lui met dans les mains les deux chandeliers en argent en plus. Eh bien, il est certain que c'est quelque chose qui aura contribué, je crois, à la conversion de Jean Valjean. En tout cas, c'est un beau geste que j'aurais aimé faire. Voilà, je trouve que c'est beau, c'est grand, et qu'il y a là quelque chose, finalement, d'extrêmement juste. Alors, l'idée générale de l'Évangile, c'est bien cela, c'est d'essayer, tant que possible, de répondre au mal par le bien. Le livre des Proverbes, cité par Paul, dit « ne réponds pas au mal par le mal, mais essaye de répondre au mal par le bien. Et si ton ennemi t'insulte, fais-lui le bien, aime-le, parce que ce sera des charbons ardents que tu lui mets sur la tête. » Et là encore, longtemps, je me suis dit « ça va le faire bisquer, ça va l'agacer, ça va l'enrager. » Non, je ne pense pas que ce soit ce que voulait dire Paul. Les charbons ardents, c'est les charbons du buisson ardent. C'est-à-dire, ce sera sur sa tête une révélation qu'il y a moyen de réagir autrement que par l'égoïsme, par la violence et la dureté. Peut-être que ce sera pour lui, justement, une forme de prédication. Et ça lui révélera quelque chose. Mais il faut, un jour ou l'autre, rompre cette logique de la violence et il faut bien que quelqu'un le fasse. Et donc, l'Évangile, voyez-vous, n'est pas à appliquer bêtement. L'Évangile, c'est à la fois un questionnement et un idéal. un idéal qui nous questionne et un questionnement qui n'est pas un questionnement absurde, mais c'est un questionnement qui nous donne aussi un idéal vers lequel nous devons essayer de nous diriger autant que nous pouvons. Et donc nous sommes finalement responsables de nos choix, responsables de la manière avec laquelle nous allons vouloir réagir. Et c'est bien parce que c'est responsabilisant, mais entre nous c'est aussi un petit peu angoissant. Parce que finalement, je me trouve démuni, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette et c'est bien compliqué. Peut-être que l'important, c'est de savoir qu'il y a une direction globale, une direction vers où aller, et donc je dois toujours réfléchir, me remettre en cause, essayer d'optimiser comme je pourrais, suivant la situation, pour aller vers l'idéal, qui est l'idéal d'amour et de paix. Mais donc il faut un corollaire essentiel à cette théologie. Ce corollaire essentiel, c'est la grâce. Sinon, ça devient angoissant, cet idéal élevé. Et je me dis, comme je l'exprimais d'ailleurs plusieurs fois là, je n'y arrive pas. Alors suis-je le dernier des pécheurs coupables ? Non, parce que justement nous avons aussi un Dieu qui ne se venge pas. Et nous avons un Dieu qui ne nous punit pas quand nous agissons mal. Et Dieu est le premier, quand nous le frappons sur une joue, à tendre l'autre. Et quand nous agressons Dieu par nos idioties, nos égoïsmes, nos violences, Dieu lui-même ne nous tend pas la fourche de l'enfer, le couperet du jugement ou de la punition, mais il nous tend l'autre joue, cette joue paternelle où il y dit « Fais-moi une bise, je t'embrasse ». Et donc vous voyez, c'est ça l'essentiel, c'est ce Dieu qui toujours se tourne vers nous et lui sait tourner cette joue neuve pour qu'on l'embrasse même si on l'a offensé. Un Dieu qui toujours nous aime, nous pardonne, nous reçoit et ne nous juge pas. Et simplement, il nous invite, je crois, à nous remplir de son amour, nous remplir de sa générosité pour agir dans ce monde comme nous pourrons, le mieux possible, tant que nous pourrons, le mieux que nous pourrons, mais surtout, sans crainte, sans angoisse, librement et joyeusement. Amen.